Europe 1.
Europe 1, 10h-11h.
Mediapolis.
Catherine Ney, Olivier Duhamel.
Bonjour Catherine Ney.
Bonjour Olivier, bonjour Guillaume Debray.
Bonjour.
Et bonjour Justine.
Bonjour.
Et bonjour à celles et ceux qui nous écoutent.
Qui nous écoute, parce que c'est Mediapolis, comme tous les samedis à 10h en direct. Émission réalisée par Jean-Luc Arblade, préparée par Capucine Patouillet et animée en compagnie de l'excellente Justine Holman. Et donc notre invité Guillaume Debray. Guillaume Debray, on dit que votre titre exact, c'est que vous êtes chef du service News de TF1. News, ça veut dire quoi, chef du service News?
C'est le titre que je porte.
Mais ça, c'est ce que je viens de dire, mais je vous demande ce que ça
c'est
veut dire.
C'est qu'à TF1, nous avons plusieurs services qui fournissent l'offre éditoriale des journaux de TF1.
Oui.
Il y a le service société.
D'accord.
Qui travaille sur des problématiques sociales. Il y a le service politique, il y a le service économique, il y a le service news, c'est l'infogéné, l'international. Et puis, j'ai en charge également la quinzaine de bureaux en région que nous avons pour couvrir la France.
Ah, c'est pas mal, donc, quand même, finalement.
Hein, finalement.
Oui, d'accord.
Vous me flattez.
Vous êtes l'auteur de Je Tweet, donc je suis l'art de gouverner selon Donald Trump. Nous sommes, comme chacun le sait, en veille de second tour des municipales. La loi dit qu'on ne doit pas faire de propagande et donner de parole à des candidats ou parler des sondages. Le CSA nous le répète un peu plus strictement, et dans tous les médias, on nous dit « donc vous ne parlez pas des municipales », ce qui est très 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 exagéré, mais comme je suis obligé de respecter cette règle, eh bien, dans ce cas-là, on a trouvé une solution, elle s'appelle Guillaume Debray, elle s'appelle Donald Trump, elle s'appelle United States of the America, on va beaucoup parler d'Amérique, et seulement un tout petit peu de la France, un tout petit peu de la France pour commencer, avec Didier Raoult, enfin, Didier Raoult, Cantelou.
Didier Raoult, qui était donc entendu par la commission d'enquête parlementaire sur le Covid hier. Une commission dont le rapporteur est Éric Ciotti et nos équipes étaient sur place. Ambiance.
Oui. Bonjour, s'il vous plaît, messieurs, on va arrêter les flashs. Voilà, on se concentre un peu. Bonjour, monsieur Raoult, merci d'avoir répondu présent. Merci de vous présenter à cette commission d'enquête qui va faire son travail en toute transparence, et j'insiste là-dessus, en toute concomitance.
Il y avait longtemps.
Monsieur Raoult, vos résultats marseillais, que vous contrôliez d'ailleurs vous-même, étaient meilleurs que partout en France ailleurs. La science a-t-elle ainsi démontré, pouvez-vous nous le confirmer, que le gouvernement n'a rien fait?
Écoutez, moi je suis un médecin, je suis un scientifique, je ne suis pas un devin. Hein. Mais à l'évidence, au gouvernement, ce sont tous des tocards.
Hein. Oui.
Je fais ce que je sais faire, c'est-à-dire ce qui se fait de mieux dans la médecine. Personne, à l'évidence, n'aurait pu avoir de meilleurs résultats, voilà, c'est tout. Comparé à moi, tout le monde a de la purée de céleri dans le cerveau, voilà, c'est ce que je vous dis.
D'accord, donc je prends note, tout le monde, à part vous, a de la purée de céleri. Céleri. On vérifiera à l'Assemblée ce que veut dire céleri dans le cerveau, voilà.
Et oui, c'était donc Nicolas Cantelou, ce jeudi, sur Europe 1. Raoult, un phénomène comme Raoult, Guillaume Debray, on peut trouver des choses de ce genre aux États-Unis ou c'est quand même.
Bien sûr
truc...
qu'on peut trouver ces phénomènes de ce genre. Je dirais pas que d'ailleurs Raoult est le Trump de la communauté scientifique, mais il a créé effectivement un rapport avec l'élite médicale, scientifique française, qui résonne avec la manière dont Trump, cloue au pilori cette élite washingtonienne, bien pensante. Qui porte le costume et la cravate bien nouée. Et donc, il y a un rapport, effectivement, de suspicion avec l'élite qui, j'allais dire, percole dans nos sociétés occidentales et qu'on retrouve à la fois chez Raoult et chez Trump.
Si je ne me trompe pas, cette figure de rhétorique s'appelle la prétérition, qui consiste à dire « je ne dirai pas que » et le dire juste derrière. Donc,
on avait dit qu'on ne parlait pas de la France.
Je ne dirais pas que Raoult est le Trump du monde médical. Et puis derrière, on nous explique comment ça résonne. C'est pas mal, ça. Et vous, alors, Trump, vous, c'est votre tasse de thé, Catherine Ney ?
Qui ?
Trump. Non, qui est Trump ?
Qui ?
Pardon, Raoult, oui.
Raoult, c'est un personnage presque de bande dessinée, parce qu'il a ce physique de hippie non recyclé. On se demande bien pourquoi, parce qu'il fut un temps où il avait l'air d'un mandarin comme tout le monde. Et puis, c'est un mandarin. C'est quelqu'un qui a fait quand même... Un centre de recherche. Parce qu'à la différence de Trump, quand il parle médecine, il connaît le sujet. Hein. Il a des options différentes d'autres grands ponte de la médecine, mais il faut lui reconnaître qu'il a la science, enfin, pour lui, il a fait des études, et d'ailleurs, il a beaucoup de gens qui travaillent autour de lui, qui l'admirent et qui le considèrent. Alors, là, sur l'hydrochloroquine dont il a fait une sorte de religion, moi, je ne sais pas quoi penser. Quand il dit que le gouvernement s'y est mal pris, qu'il aurait fallu tester plus tôt, je n'en sais rien. Et je veux dire, comme moi, je ne connais pas la médecine, je m'interdis d'avoir une opinion là-dessus, mais je vois que, en tous les cas, devant cette commission d'enquête, où il a commencé à dire qu'il n'était pas impressionné parce qu'il était passé à la télévision chinoise où il y avait 1,4 milliard d'auditeurs, alors vous pensez bien que là, avec les députés, et il était chez lui. Il a dit ce qu'il voulait, et je veux dire, et c'était le boss qui parlait, les députés... Franchement, ne connaissait pas tous bien le sujet pour l'interroger.
Mais il y a un phénomène qui est très étonnant avec l'hydroxychloroquine du professeur Raoult. C'est que ça a dépassé les frontières. Donald Trump, vous vous en souvenez, a affirmé avec un sourire gourmand d'en prendre, devant l'étonnement de tous les journalistes. Le président Bolsonaro, lui aussi, est devenu un fervent avocat de cette médecine. Oui. Ce qui est très étonnant, c'est que c'est devenu un peu une croisade populiste contre l'establishment médical de toutes ces démocraties occidentales, ou plutôt latines pour le Brésil, qui, sous couvert d'un discours très policé, en fait, et c'est ce qu'on a quand même découvert depuis les semaines dernières, il y a beaucoup de dissensions, il y a beaucoup de tirailleries, et puis il y a visiblement quelques petits conflits d'intérêts.
Oui, moi, ce qui m'a amusé, vous voyez, c'est que le lendemain, il était chez Bourdin, le lendemain matin, où il est arrivé en majesté, il a fait quand même 1 million d'auditeurs, hein, ce qui est énorme pour cette matinale. Et alors, on voyait bien qu'au début, Bourdin faisait du Bourdin, essayait de l'asticoter. Et l'autre m'a dit, écoutez, je m'en vais, parce que dans l'air de dire votre interview, je m'en moque. Et alors après, j'ai trouvé que Bourdin s'aplatissait, était presque gentil, et se comparait à Raoult. À un moment, Raoult dit, moi, ce qui compte pour moi, ce n'est pas l'opinion des autres, c'est... l'estime que j'ai de moi-même et l'estime de ma famille. Ah, mais vous êtes comme moi, disait Bourdin, dont on se demande si voilà. Et alors, et après, moi, je ne ferai jamais de carrière politique. Moi, je reste où je suis, dit Raoult. Ah, mais encore un point commun avec moi. Moi, j'ai trouvé ça, enfin, surréaliste.
C'était la rencontre de deux mégalos, en quelque sorte.
Voilà, oui. Je vous le fais dire.
Non, mais c'est d'ailleurs dans l'interview du Parisien du matin où il passe dans la commission d'enquête, à un moment, il dit « Est-ce que vous demandez comment Mozart a fait ?» Et puis le soir, l'après-midi à la commission d'enquête, il dit « Plus on est sachant, plus on est humble ». Le même mec qui s'est comparé le matin à Mozart. Notre collègue Patrick Cohen a fait un formidable édito à chaud dans C'est dans l'air là-dessus. Et alors il s'en prend mais plein la figure dans les réseaux sociaux. Alors ça, Raoult, c'est le héros des réseaux sociaux, ce qui va de pair avec ce que vous disiez, Guillaume.
Oui, il a touché quand même une corde dans le sentiment... le rejet de ce parisianisme.
C'est à vous,
c'est dans l'air, c'est la même. C'est à vous. Mais il a touché une corde dans le rejet du parisianisme, de l'élite politique, l'establishment médical, scientifique. Et ça résonne. Il est devenu un peu l'OM version médicale.
Mais ça, c'est le point commun qui est quand même très intéressant avec Trump, je trouve. C'est que quelqu'un qui appartient absolument à l'élite peut devenir, par son discours et son attitude, un héros populiste de l'anti-élite. Il faut le faire quand même. A priori, on s'est dit, mais jamais un milliardaire comme Trump.
Mais qui est tout de même admiré par le populo, comme vous dites, parce que c'est un sachant. Alors que Trump montre qu'il n'est pas un sachant, sur aucun sujet presque.
Oui, mais Trump a compris l'extraordinaire crispation culturelle des Blancs américains. Il a compris... quand bien même il serait milliardaire et qu'il ne vivrait pas la même condition sociale de ces millions d'Américains, il a réussi avec son discours, avec son positionnement, avec sa truculence, à se faire admettre de cette population déclassée, angoissée, qui craint une mondialisation qu'elle ne comprend plus. Et son discours, et ce qui est très impressionnant, c'est que depuis 4 ans, il n'a pas changé. Et on pouvait imaginer que lui, travaillant dans le bureau ovale, au milieu entouré de conseillers, il se serait, j'allais dire, il aurait pris ses distances vis-à-vis de cette base électorale. Il est resté le même, avec le même discours, insurrectionnel. C'est très très rare quand même dans l'histoire politique.
Alors on va voir que Trump, cette semaine, nous on a eu tellement de rebondissements depuis 48 heures sur les rapports entre les juges, le pouvoir, les juges, les avocats, qu'on a un peu passé sous silence le fait que Trump, lui, il avait carrément viré un procureur, le procureur de Manhattan. Guillaume Debray va vous expliquer ça dans quelques instants.
Jusqu'à 11h, vous êtes avec Olivier Duhamel et Catherine Ney pour Mediapolis. Ce samedi, ils reçoivent le chef du service news de TF1, Guillaume Debray, auteur de Je tweet donc je suis, l'art de gouverner selon Donald Trump aux éditions Fayard.
Guillaume Debray, chef de l'immense service news de TF1 et grand spécialiste des États-Unis. Alors, Guillaume Debray, il y a quelque chose qui moi, m'a sidéré. J'ai lu qu'il y a 3 jours, le ministre de la Justice avait annoncé que Donald Trump révoquait le procureur de Manhattan.
Absolument. D'abord, il a pris cette décision en violation du droit américain, c'est-à-dire que ce n'est pas le ministre de la Justice aux États-Unis qui vire un procureur, puisqu'il a été nommé et par le Sénat américain dans un vote. Donc il a le droit effectivement de le mettre de côté, mais il faut que le Sénat nomme un remplaçant. D'accord. Ce procureur, c'est Jeffrey Berman. C'est un procureur qui avait été nommé, tenez-vous bien, par Donald Trump.
Oui.
C'est un procureur qui a un CV long comme le bras. Il a été éduqué dans les meilleures universités, mais il a eu l'outrecuidance de vouloir enquêter sur les agissements d'un certain Rudy Giuliani. Rudy Giuliani, c'est l'ancien maire de New York, celui qui avait nettoyé la ville.
Et l'avocat de Trump.
Et qui est aujourd'hui l'avocat personnel de Donald Trump. Et qui est celui notamment qui a, j'allais dire, supervisé l'enquête qui a abouti à la procédure d'impeachment. Cette enquête, vous vous en souvenez, c'était sur les enregistrements de conversations avec le président ukrainien dans lesquels Donald Trump aurait ordonné ou demandé, selon, au président ukrainien, d'enquêter sur les investissements financiers du fils de Joe Biden pour essayer de le discréditer dans la course à la Maison-Blanche. Voilà un soap-opéra à l'américaine qui montre bien que si vous pensiez, mon cher Olivier, que l'autorité judiciaire française était indépendante, le pouvoir judiciaire, parce qu'aux États-Unis, la justice est un pouvoir, eh bien, une partie de ce pouvoir judiciaire est encore soumise au désir du prince et au désir de Donald Trump.
C'est assez fascinant parce qu'en vérité, évidemment, toutes ces affaires sont différentes. Mais on retrouve quand même des histoires de corruption, des histoires d'enquête, des histoires d'écoute. Comme en France, vous avez fait votre édito ce matin, Catherine Ney, sur les derniers rebondissements qui sont le parquet national financier suivant à la trace.
La double enquête, c'est-à-dire l'enquête normale du parquet, plus doublée par le PNF
qui cherche une taupe
chez les avocats. Alors que s'il y a une taupe, c'est que des avocats ont été informés par justement ceux qui, autour des avocats, les policiers étaient au courant. Or, ceux-là, les avocats, les collaborateurs des juges, les policiers, personne n'a subi d'enquête et n'a pas été, les fadettes n'ont pas été relevées chez ces gens-là. Et donc, pourquoi voulez-vous qu'un avocat ait cette information ? Et par qui ?
Non, mais ce qui me frappe, si vous voulez, on va pas reprendre toute cette affaire-là maintenant.
C'est dingue.
Mais ce qui est totalement dingue, je suis d'accord avec vous, et qui maintenant met quand même en face à face et en conflit des juges, hein, je ne dis pas les juges, mais des juges, avec là, on pourrait quasiment dire les avocats, parce qu'il n'y a pas un seul avocat pour les défendre. Mais regardez, y a une sorte de perturbation au sein même de l'État régalien. Il y a 15 jours, c'était entre la police et le ministère de l'Intérieur. Aux États-Unis, c'est entre une partie de la police et Donald Trump. Après, c'est les juges, les procureurs. C'est quand même assez inédit, si on regarde encore une fois les choses très, très zoom arrière, hein, sur plusieurs décennies. C'est assez inédit qu'au cœur de l'État régalien, de l'État républicain, il y ait ces conflits ouverts entre police-ministère, police-pouvoir, juge-avocat, etc.
Mais on a quand même, dans nos démocraties occidentales, une dérive plébiscitaire qui est en train de s'installer. Et donc, l'institution, qu'elle soit judiciaire ou policière, a maintenant des rapports très complexes et très compliqués avec le pouvoir politique, par définition. Parce qu'il y a une certaine, en tout cas aux États-Unis, puisque je vais bien tenir durant cette émission, en tout cas aux États-Unis, une certaine personnalisation du pouvoir et des moyens du pouvoir qui pose de grandes questions. Pour revenir à la France, l'enquête préliminaire du PNF est quand même tout à fait légale. Elle pose beaucoup de questions, mais elle est légale. Elle dérive de la procédure inquisitoire, que vous connaissez bien, Olivier,
qui n'existe pas. Ça se discute, Guillaume Debré, si vous me cherchez dans les détails, parce qu'une enquête pour violation du secret professionnel, c'est pas dans le champ de compétence du parquet national financier, et ça aurait dû être confié à un procureur normal. Donc, quand vous dites que c'est légal, c'est discutable.
Ils ont le droit d'ouvrir une enquête préliminaire, même hors du...
Ils doivent la transmettre au juge instructeur,
mais ça reste une des prérogatives.
Et quand les avocats ont interrogé Mme Houlette pour savoir si cette enquête existait, elle leur a répondu que non.
Et donc, par ailleurs, à l'issue, quand on classe sans suite, on n'en informe pas la défense alors que ça protège la défense. Et on écoute à plusieurs reprises pendant 6 ans. Enfin, on écoute, on trace par les appels téléphoniques et par la géolocalisation des avocats dans des conditions très, très, très disproportionnées qui peuvent être un troisième motif d'illégalité. Tout ça sera déterminé à l'arrivée. Mais quand on dit que tout ça est légal,
ce n'est que l'héritage de l'autorité judiciaire et du fait que les Français n'ont pas de rapport avec la justice comme étant un pouvoir indépendant.
Ah, vous êtes bien Guillaume Debré, petit-fils de Michel Debré.
C'est la Constitution.
C'est la troisième fois qu'il nous dit autorité judiciaire.
Mais c'est la Constitution
de 1950.
Si vous disiez
pouvoir judiciaire, il avait une crise d'apoplexie. Vous avez remarqué, Michel Debré avait les crises d'apoplexie fréquentes. Mais alors, si jamais vous disiez
Michel Debré tranquille, il se trouve qu'aux États-Unis, on a la procédure accusatoire. Je sais qu'elle ne plaît pas à beaucoup de magistrats et de professeurs de droit français, mais au moins elle a une transparence. Les deux parties enquêtent et il y a une obligation de partager les preuves, qu'ils soient à charge ou pas.
Et pendant ce temps-là, Trump, on y revient dans quelques instants.
Mediapolis continue avec vous, Olivier Duhamel, et vous, Catherine Ney, mais avec aussi votre invité du jour, Guillaume Debré, le chef du service news de TF1.
Alors, ce qu'il y a de bien avec Donald Trump, c'est que on se dit, bon, là, il est allé trop loin, mais c'est la dernière fois. Il va pas nous en faire une pire encore. Eh bien, si, écoutez.
Vous savez, les tests, c'est une épée à double tranchant. On a testé maintenant 25 millions de personnes. C'est probablement 20 millions de personnes de plus que partout ailleurs. L'Allemagne en a fait beaucoup, la Corée du Sud en a fait pas mal. Ils m'ont appelé, ils m'ont dit, ce que vous faites... Voici le mauvais côté. Quand vous faites autant de tests, vous trouverez plus de monde, vous trouverez plus de cas. Alors j'ai dit à mes équipes, ralentissez les dépistages, s'il vous plaît.
Samedi dernier, si vous dépistez plus, vous trouvez plus de cas, alors ralentissez les dépistages. Bon, alors que tout le monde sait que une des façons de lutter contre la pandémie, c'est dépister, et puis si on trouve, isoler, et le cas échéant, soigner.
Et le plus étonnant, c'est qu'évidemment, juste après cette déclaration qu'il a faite devant 6000 militants dans l'Oklahoma, tout son entourage, qui est un peu plus modéré que lui, ont essayé de dire non, mais vous comprenez bien, le président faisait une blague... C'était pas vrai. 24 heures plus tard, Donald Trump redit ça. Il dit « Mais je blaguais pas du tout. Il faut arrêter de tester. » Il a effectivement cette dissonance politique avec le monde, avec l'establishment, qui fait de lui, j'allais dire, un ovni politique. Il n'y a pas deux Trump dans l'histoire américaine. Et dans beaucoup de pays, c'est quand même une
anomalie. Il ose même dire qu'il a une intuition médicale... qui est quand même singulière parce qu'il avait un oncle ou un cousin ou un grand-père qui était médecin. Non, mais il ose dire ça.
Et alors, son intuition médicale, elle a abouti à des prescriptions quand même. Très compliqué de boire l'eau de Javel et de se faire des rayons. C'est très étonnant, mais comprenez bien Donald Trump. C'est un showman politique. Et là, effectivement, il a fait son premier meeting. Ce qui est très étonnant, c'est qu'il a pris en otage le cycle médiatique américain encore une nouvelle fois. Et pendant 48 heures aux États-Unis, on ne parlait que de ça, que de son meeting raté, mais de son meeting quand même, de ses blagues, de ses inepties, de ses mensonges. On ne parlait que de ça. Et il y a une personne dont on ne parle absolument pas ou absolument plus, c'est Joe Biden.
Alors là, il y a une thèse qui est que qu'importe les conneries que peut sortir Trump, la seule chose qui compte, c'est qu'il continue à envahir l'espace médiatique. Et puis, il y a une thèse contraire qui est, oui, mais de temps en temps, c'est trop et ça commence à lui nuire, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Et sa thèse, quoi que je dise, quoi que je fasse, la seule chose qui compte, c'est que je sois présent, pourrait bien s'avérer inexacte. Quelle est de ces deux thèses la plus pertinente ? Eh bien, Guillaume Debré, qui est un grand spécialiste des États-Unis, va nous donner sa réponse. Catherine Ney, qui est une spécialiste de la politique en général, la sienne, Et s'il me laisse quelques secondes, moi je vous dirai aussi ce que j'en pense, même si ça vous intéresse normalement moins. Et tout ça dans quelques instants.
Comme chaque samedi, vous écoutez Mediapolis avec Olivier Duhamel et Catherine Ney jusqu'à 11h. Ils reçoivent ce matin Guillaume Debray, chef du service news de TF1 et auteur de Je tweet donc je suis, l'art de gouverner son Donald Trump aux éditions Fayard.
Je résume deux thèses. Soit ce mec est too much, il y a un moment où c'est trop, soit avec Trump c'est jamais trop. Alors Catherine Ney.
Non, mais moi, je juge comme une Française, oui. Vous me l'avez dit, qui ne connaît que la politique française.
Non, j'ai dit la politique en général.
Bon, et moi, ce type est too much. Et c'est vrai qu'on aura un candidat comme ça qui fait des blagues aussi déplacées, et puis surtout et montrant son ignorance dans tous les domaines et s'en glorifiant, que ça serait insupportable. Je pense que ça ne serait pas supporté, même si un électorat populaire qui l'admire.
Vous ne croyez pas au succès d'une candidature Bigard, par exemple, voilà.
Ah ben pas du tout. Bon. Non, mais okay. Non. Mais d'ailleurs, moi je compare pas non plus Bigard et Trump. Hein, c'est autre chose.
Oui,
mais
bon.
Mais je veux dire, non, mais c'est non, mais je veux dire non.
D'accord,
non, non.
D'accord. Alors revenons à Trump. Répondez, Guillaume Debray.
Moi, je suis
ils disent contraint que vous allez nous dire que Trump a raison.
Alors je vais vous dire que Trump est persuadé, mais intimement persuadé, qu'il n'y a pas de mauvaise publicité.
Mais il a raison ou tort ?
Il a raison parce que il a raison pour deux raisons, je vais vous dire. Aujourd'hui, la campagne électorale est structurée autour de lui. Oui. Les démocrates, j'allais dire, sont périphériques. Oui. Ce qui est important, et c'est ce qui va probablement se faire, c'est est-ce que ça va être un référendum sur Trump ? C'est une question que lui pense pouvoir gagner. Je ne suis pas sûr qu'il ait raison sur cette question, mais il essaye de structurer la présidentielle autour de son nom.
Je vous interromps une seconde là. Je vous rappelle, parce que vous êtes trop gamin pour avoir vécu ça.
Je suis flatté.
L'élection présidentielle de 81 qui aboutit à la victoire de François Mitterrand, il y a toute une période en février où Mitterrand est complètement absent. Il fait même un voyage en Chine. Donc l'idée que dans une campagne présidentielle, il y a un moment où si vous mettez sous le radar, ça peut vous profiter parce que l'autre va s'user, c'est arrivé dans l'histoire.
Reprenez. C'est arrivé dans l'histoire. Il y a une petite différence, Olivier. C'est que aux États-Unis, ce n'est pas une élection présidentielle. C'est 50 élections locales.
Ouais.
Il va falloir donc que Joe Biden, le candidat démocrate, arrive à séduire une constellation d'électorats répartis dans 50 États pour pouvoir gagner, parce qu'il y a une autre petite distinction électorale américaine, pour pouvoir gagner la majorité dans les États. Parce que quand vous gagnez un État, vous gagnez tous les grands électeurs. C'est ce qu'on appelle le winner takes all.
Ouais.
Et ça fait une
comme
partie
les arrondissements et Paris, élections municipales.
Exactement.
J'ai dit qu'un truc très abstrait.
Ne comparez pas à Hidalgo et Donald Trump. Effectivement, le système électoral le plus comparable, c'est l'élection municipale parisienne.
Oui. Paris-Lyon-Marseille même.
C'est Paris, c'est particulier.
Ouais.
Donc Donald Trump veut structurer ça. Joe Biden, sa stratégie, effectivement, elle est pour l'instant de ne rien dire, de ne rien faire, et de laisser, et de penser, et d'imaginer que Donald Trump va imploser en accumulant une saturation d'inepties et de mensonges dans l'électorat où les gens n'en voudront plus.
Mais ça lui réussit à Joe Biden, puisqu'il a pris 14 points.
Absolument. Pour l'instant, ça lui réussit parce que, et c'est vraiment le sondage que les Français devraient regarder. Il y a un sondage qui est paru il y a quelques semaines qui demande aux électeurs, et notamment ceux qui détestent Trump et qui détestent Biden, donc qui n'ont pas envie de voter, qui ne se reconnaissent dans ni l'un ni l'autre, pour qui ils iraient voter en novembre 2020, dans 4 mois et demi. Et là, il y a une majorité des gens qui disent « En fait, moi, je déteste moins Biden que Trump ». En 2016, Trump avait gagné sur ce sondage. C'est-à-dire, il avait gagné en séduisant ceux qui ne voulaient pas voter.
Vous voyez que donc ça commence à lui venir. Vous, quand vous nuancez sérieusement votre première réponse.
Bien sûr que ça commence à lui venir. Mais
et Hillary Clinton était détesté.
Hillary Clinton était détesté.
Ah non, mais ça, j'ai toujours dit. Aujourd'hui, les gens votent plus contre que pour.
Oui.
Et le contre Clinton était beaucoup plus fort que le contre Trump, ce que les Européens, encore plus les Européens chicos des intelligentsia, n'avaient jamais compris.
Absolument. Le problème aujourd'hui pour Joe Biden, c'est comment est-ce que, depuis 30 ans, il n'y a pas eu un candidat démocrate ou républicain, j'allais dire de compromis, qui a réussi à gagner l'élection présidentielle. Pour créer une élection présidentielle américaine, il faut créer de l'enthousiasme. L'enthousiasme d'une minorité peut-être, surmobiliser son camp, mais il faut créer l'enthousiasme. Aujourd'hui, l'enthousiasme pour Joe Biden, il ne s'exprime que par le rejet de Donald Trump. Est-ce que ça sera suffisant pour gagner ? Ça va être très compliqué. Les maths électorales, et je ne veux pas rentrer dans le détail. Les maths électorales pour Donald Trump sont effectivement compliquées. Comment est-ce qu'il va arriver à avoir plus de 270 grands électeurs, donc la majorité au sein de ce collège électoral ?
Biden est donné gagnant dans la quasi-totalité de ce qu'on appelle les swing states, des états décisifs.
Hein. Exactement. Pour l'instant, dans les sondages, il a creusé l'écart dans ces états décisifs. La Floride, c'est un petit peu plus compliqué,
la Floride,
mais
d'accord.
Effectivement, donc là, il a un avantage dans les sondages. Moi, je me méfie des sondages parce que je peux vous faire la liste de tous les candidats qui étaient déclarés vainqueurs 4 mois et demi avant. Il n'y en a pas un qui a été président. Donc, méfiez-vous des sondages.
Malheureusement, ce n'est pas 100% vrai. C'est-à-dire, on ne peut pas dire, si les sondages disent blanc, on peut être sûr que c'est noir. C'est
absolument,
pas aussi simple que
absolument.
Ça.
Oui, mais d'un autre côté, quand vous voyez Biden, vous voyez qu'il n'a pas, comme aurait dit le général de Gaulle, le fluide de l'autorité. Et je trouve qu'il a une présence qui est très pâle. Et puis, ce n'est pas un orateur. Alors, il a un joli sourire, mais vous ne dites pas, c'est un chef, quoi. Il manque de testostérone. Alors, face à Trump, mais c'est la version...
Oui, vous avez raison, Catherine. Mais en même temps, Peut-être que le fait d'être... Enfin, il y a une thèse, je ne dis pas que c'est la mienne, je dis qu'elle m'intrigue, qui dit que c'est bien pour lui d'être terne. Que les gens sont fatigués de Trump, fatigués de la politisation permanente, fatigués qu'il y en ait une news tous les deux jours, oui. Et que prendre un type qui va être cool, qu'on ne peut pas détester, c'est très dur, on ne peut pas aimer Biden, mais est-ce qu'on peut vraiment détester Biden, qu'on va respirer un peu après Trump? C'est pas idiot, cette
thèse. Non, mais c'est très vrai, et il y a beaucoup d'Américains, moi je le vois dans notre entourage, puisque mon épouse est américaine, j'y suis pas retourné depuis quelques temps parce que je n'ai pas le droit d'y aller.
Et vos beaux-parents admirent Trump.
Et mes beaux-parents, exactement, sont de solides supporters
de
Trump.
Quelle mémoire,
Catherine. Je suis sûr que mes beaux-parents sont très flattés.
Il l'avait dit la veille du premier tour des municipales.
Ça m'avait frappé.
Absolument. Ouais. Ils n'ont pas bougé. Pour leur parler régulièrement, ils sont toujours de fervents supporters.
Vous les choquez toujours autant, donc.
Je les choque. Ils ne m'apprécient toujours aussi peu, j'allais dire. Mais il. Et depuis, il en a quand même dit des inepties et des mensonges et des blagues mal placées. Et pourtant, mes beaux-parents, qui sont des républicains modérés, assez religieux, ne sont toujours supporters de Trump.
Mais ils aiment quoi chez lui ? Votre beau-père, il vous dit quoi ?
Ils aiment le bras d'honneur permanent à Washington. Ils détestent Washington.
Ils détestent Washington. Et pendant ce temps-là, il s'est passé, comme chacun le sait, tous les événements après le meurtre de Floyd. Et du coup, quel effet ça a ? Quel rôle ça joue dans la campagne ? On y vient dans... Allez, 2 minutes max.
Le chef du service news de TF1, Guillaume Debray, est votre invité ce matin. Olivier Duhamel et Catherine Ney dans Mediapolis.
Allez, on va quand même... Il est sous les radars, mais on va quand même pas faire toute l'émission sans entendre un tout petit peu Joe Biden. Parce que là, il est quand même sorti de sa tanière, de son bunker, lors des funérailles de George Floyd.
C'est une famille incroyable. Sa petite fille était là. Elle m'a dit que son papa allait changer le monde. Et je pense que son papa va changer le monde. Je crois que ce qui se passe en ce moment, c'est l'un des plus grands tournants de l'histoire américaine pour les droits civiques. Les libertés et le fait de traiter les gens avec dignité.
C'était le mardi 9 juin. Le mouvement, l'immense mouvement finalement à travers les États-Unis à partir du meurtre de Floyd, est-ce que ça profite, enfin c'est un peu évidemment politicien de poser les questions comme ça, mais quand même, puisqu'on se préoccupe de l'élection présidentielle, est-ce que ça profite à Biden, est-ce que ça profite à Trump, est-ce qu'on ne peut pas vraiment savoir?
Je pense que ça profite à Biden en ce moment. Biden s'est positionné, en fait la victoire électorale se jouera sur que va faire une partie de l'électorat blanc. Il faut bien comprendre que les Blancs représentent à peu près 66% du corps électoral, les Afro-Américains 13%. Et donc il y a une bataille pour essayer d'avoir ce vote blanc qui, pour l'instant, est acquis en majorité à Trump. En tout cas, si on se base sur les élections de 2016.
Ce que j'ai regardé dans les détails des évolutions de ces dernières semaines, c'est qu'une grande partie de la baisse de Trump et donc de la montée de Biden vient des femmes blanches.
Exactement, des femmes blanches, ce qu'on appelle sociologiquement aux États-Unis les soccer moms. Vous voyez qu'Olivier, il suit la politique américaine avec autant de précision que la politique française.
Vous comprenez pourquoi j'admire.
Ah oui. Et donc, ce sondage montre effectivement qu'il y a une évolution sociologique du vote blanc américain qui était en majorité en faveur de Trump et qui... au regard de cette crispation sociale très importante qu'a été la mort de George Floyd et les mouvements raciaux qui s'en sont suivis, il y a une partie de l'électorat blanc qui dit ça suffit, on en a marre de cette hystérisation permanente, de cette division permanente, on cherche quelqu'un qui va nous unir. Et ça, Biden, sans être très présent dans les médias, a réussi à capter cet électorat. Mais il y a une autre partie, et il y a une partie de l'électorat blanc qui veut de l'ordre et du droit, qui veut ce qu'on appelle le « law and order », l'électorat blanc. Et ça, pour l'instant, il résiste encore et il suit Donald Trump.
Parce qu'il sait leur parler, Trump, écoutez.
Cette gauche hors de contrôle tente de vandaliser notre histoire. Cette cruelle campagne de censure enfreint tout ce qui compte pour nous en tant qu'Américains. Ils veulent démolir notre héritage pour imposer leur nouveau régime. Ils veulent couper les budgets et dissoudre la police, vous imaginez ? Ces gens sont totalement fous.
C'était donc dans ce meeting à Tulsa, Oklahoma, son européen samedi 20 juin.
Non, mais c'est pas lui qui mettrait un genou à terre.
Hein. La violence du propos, c'est quand même inouï, hein, qu'il accuse ses adversaires de vouloir supprimer la police.
Et alors, d'abord, il ne les accuse pas. Il y a certains membres du Parti démocrate, l'aile très à gauche, Ocasio-Cortez, vous vous souvenez de cette jeune représentante de l'État de New York, qui demande à ce qu'une partie de la police américaine soit démantelée. C'est pas, il ne l'invente pas, c'est vrai. Évidemment, il essaye de montrer et de dépeindre Joe Biden comme étant un pantin de l'extrême gauche. Il est en train de prendre une page de l'histoire électorale tirée de Richard Nixon. On parle de l'élection de 1968. Je vous recommande, je crois, le numéro 6 de la série de podcasts d'Olivier, Mr. President, que j'ai lu, que j'ai entendu, j'ai écouté il y a quelques semaines sur l'élection de 68 et la mort de Robert Kennedy. C'est dans deux minutes, pardon, mais moi je l'ai un petit peu avancé. Oui. Mais en tout cas, cette page de 1968, quand Nixon a réussi donc à prendre le pouvoir parce qu'il y avait une crispation raciale très importante qui a angoissé une partie de l'électorat blanc, c'est exactement ce que Donald Trump est en train de faire. Est-ce qu'il y arrivera ? On verra en novembre.
Mais puisque vous parliez des femmes, moi je voulais savoir si le choix de la vice-présidente pour Joe Biden va être important dans la campagne. Alors, on parle d'une possible afro-américaine, la maire d'Atlanta. Est-ce que c'est possible ? Est-ce que ça lui apporterait quelque chose ? Est-ce que, de toute façon, ce sera une femme ? Est-ce que c'est important, puisque les femmes blanches vont vers lui ? Voilà, je voulais avoir...
C'est essentiel. Le rôle du choix du colistier ou de la colistière est essentiel dans l'histoire politique américaine parce qu'il équilibre le ticket. Et là, effectivement... Tous les noms qui reviennent, qui ne sont que des indiscrétions, puisqu'on ne sait pas qui il va choisir, il choisira sa colistière au début août, c'est pour très probablement une femme et il est très possible qu'il choisisse une afro-américaine. C'est pas sûr du tout, hein, mais c'est sûr qu'il y aura une femme.
Mais dans le climat actuel, ça voudrait dire quelque chose.
Parce qu'il a besoin de l'électorat féminin pour battre Donald Trump. C'est ça l'unique raison.
Et ça voudrait dire quelque chose aussi parce qu'il a 78 ans et que donc la certitude qu'en cas d'élection, il tienne 4 ans n'est pas évidente. Allez, dernière petite pause et puis hop, on va aller voir quelqu'un d'autre. Vladimir, il s'appelle Poutine.
Jusqu'à 11h, on vous retrouve, Olivier Duhamel et Catherine Ney, avec Mediapolis. Aujourd'hui, vous êtes accompagnés par Guillaume Debray, chef du service news de TF1 et auteur de Je tweet donc je suis, l'art de gouverner selon Donald Trump aux éditions Fayard.
Guillaume Debray, chef du service news, il a le monde entier sous sa tutelle journalistique. Et il n'y a pas que Trump qui se croit tout permis, il y en a un autre. Alice Baudry, directrice de la communication et du marketing de l'Institut Montaigne, qui surveille les médias internationaux pour nous, a repéré un article du Financial Times d'avant-hier. Pas du tout. Si, oui, d'avant-hier. Bon, ça commence bien, tiens. Vladimir Poutine se donne l'option de 15 ans supplémentaires au pouvoir. 15 ans, grâce à des changements constitutionnels avant l'élection. Le résultat du « entre guillemets référendum » comme pour tous les sondages russes est acquis d'avance. Cela veut dire... une décennie et demie de plus pour continuer d'entretenir des tensions avec le monde occidental. Dans un article donc du Financial Times, l'éditorialiste Philip Stevens explique que Poutine est prêt à aller jusqu'à, je cite, « balayer les toiles d'araignée de la guerre froide » et commencer à reconnaître la puissance montante russe avec son ami et allié la Chine. Certes, l'axe sino-russe actuel peut sembler logique, les deux nations rejettent l'ordre mondial d'après-guerre conçu par les Américains. Mais le problème est que jusqu'à présent, la politique étrangère de Poutine a été tactique au lieu d'être stratégique. Poutine est, selon Stephens, une créature du KGB soviétique incapable de sortir de sa propre nostalgie. Mais un leader qui prévoit de conserver le pouvoir pendant 15 ans doit prendre le temps de faire un bilan stratégique et faire preuve de pragmatisme. En réalité, pour la Russie, les défis et les risques se trouvent à l'Est. Obsédé par l'humiliation supposée de l'Union soviétique par l'Occident, Poutine ne le voit pas. Dans son état d'esprit, l'alliance de l'OTAN, c'est l'ennemi. Son objectif est en permanence de maintenir les apparences pour le prouver. Pendant ce temps, les réalités économiques et stratégiques ont évolué dans la direction opposée. Le Covid a durement frappé la Russie. La chute du prix du pétrole a privé le régime de flexibilité économique et de fonds. Résultat, la Russie se retrouve partenaire junior de Pékin.
Poutine, qu'il veuille continuer à régner 15 ans, mais il copie sur le chinois qui, lui, s'est fait confirmer à vie. Quoi. C'est ce qui se passe en ce moment. La démocratie est bafouée. Et c'est impressionnant que la Chine et la Russie optent pour la même voie. Mais c'est vrai qu'ils méprisent des pays comme la France, où on change de leader tous les 5 ans, où il n'y a pas de suite, où on ne peut pas avoir de projet, où la majorité qui suit la nouvelle casse ce qu'avait fait la précédente. Enfin, c'est insupportable. Hein.
Alors, c'est peut-être regrettable, mais c'est le propre des démocraties. Et ben dans les dernières, puisqu'on revient
mais regardez, en Allemagne, au moins, ils gardent un leader pendant 4 mandats, 5 mandats, le pays se porte mieux.
Aux États-Unis, c'est interdit. Et on va revenir une dernière fois à Trump pour conclure. Il y a un livre qui vient de sortir qui laisse entendre qu'il pourrait refuser une défaite électorale. D'autres qui disent, lui avait même dit plusieurs fois qu'il serait là pour je ne sais pas combien de temps. Il y a le début du commencement d'un risque d'une poutinisation des États-Unis ou du président.
En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une pulsion chez Trump qui admire ces autocrates. Le premier mandat de Donald Trump, on verra s'il y en a un second, en tout cas a prouvé une chose, c'est la formidable robustesse des institutions américaines. Et Olivier, je ne sais pas si jamais un Trump français arrivé au pouvoir, si nos institutions, vous connaissez mon attachement pour la Constitution de 58, je ne sais pas si nos institutions sont assez robustes pour, j'allais dire, absorber le choc populiste ou le choc institutionnel qu'un Trump à la française représenterait.
Ça pourrait même être l'inverse, elle pourrait, hélas, le servir. Alors, pour terminer, comme d'habitude, la chanson, mais cette fois-ci, une chanson un petit peu particulière. Cette chanson, c'est une chanson proposée par Catherine Ney. Et d'abord, pour la chanson elle-même, il fait beau à Paris, et c'est vrai qu'il a fait beau cette semaine, et qu'il va faire à nouveau beau, même si un tout petit peu moins chaud. Mais elle a été composée par Jacques Grelot et Guy Béard, et elle est interprétée par un groupe Les Trois Jacques, et dans les chanteurs, parmi les chanteurs, il y a Catherine, votre frère.
Mais oui, c'est, je voulais lui rendre. Enfin voilà, j'ai pensé à lui parce qu'il faisait très chaud cette semaine et tout le monde disait il fait chaud. Et j'avais son disque où il chantait avec deux amis, Jean-Serge et Jean-Paul Ménard. Et voilà, et j'ai dit mais pourquoi pas.
Eh bien pourquoi pas, écoutez.
Quand le soleil s'est levé là-bas derrière Pantin, ça n'a été qu'un cri dans le petit matin. Il fait beau.
Les oiseaux de Paris filent au champ ventre à ciel.
Aux quatre coins du ciel ont porté la nouvelle. Il fait beau. De la muette à Pigalle, on se l'est répété.
Une bonne nouvelle, ça vaut le coup d'en parler.
Il fait beau.
Et tout Paris bientôt fredonne obstinément. Ce refrain de trois mots monotone et charmant.
Il fait beau, tout le monde est content. Puis le soleil radieux montant un peu plus haut, en fin de matinée, il y a quelque chose de nouveau. Il fait chaud.
Ça s'aggrave de rondeur, bientôt nous étouffons.
On a un petit peu d'air quand il passe un avion. Il fait chaud. Les femmes sont adorables, comment peuvent-elles ranger
dans si peu de tissu, tant de choses à toucher.
Il fait chaud.
Partout dans les bistrots, on prépare les grands verres. On a beau être content, on se fait monter de la bière.
Il fait chaud. jamais sans faire. Délaissant avant l'heure son tori de bureau, l'ami Gaston chez lui est rentré bien trop tôt.
Bien trop tôt.
Il fait chaud.
Il a trouvé sa femme, seule avec un monsieur.
À part le drap du dessus, il n'avait rien sur eux. Il fait chaud. Gaston restait sans voix, sa femme ne disait rien. Alors l'autre type a dit,
y'a comme ça qu'on est bien.
Il fait chaud, il fait chaud.
Vous croyez dit Gaston?
Je peux vous l'affirmer.
Gaston s'est dévêtu et tout s'est arrangé. Il fait chaud, on peut pas se fâcher. Enfin c'est le soir, assis devant leur maison, les concierges déclarent avec satisfaction, il fait bon.
Dans le ciel assombri, les hirondelles font,
en poussant des petites cris, une partie de sautes moucherons. Il fait bon. Puis le soleil pressé disparaît vers Saint-Cloud.
Là, le tour du monde à faire, faut qu'il en mette un coup.
Il fait doux.
Pas de temps à perdre.
S'il veut être revenu demain,
on compte sur lui de bonheur là-bas derrière Pantin. Il fera beau,
il fera beau,
il fera beau. Ça nous plaira bien.
Et voilà, merci infiniment aux trois Jacques et parmi eux particulièrement à Dominique Ney, frère de Catherine. Merci Catherine d'être si vive et délicieuse dans cette émission. Merci à Guillaume Debré, au grand talent, à notre réalisateur bien-aimé Jean-Luc Arblade, à Capucine Patouillet et à l'excellente Justine Holman. On se retrouve nous samedi prochain